Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum L'Épargne, notre partenaire. Quorum L'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum L'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum L'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode! Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Dans cet épisode, j'accueille Victor Lévesque. Si vous ne le connaissez pas, sachez que c'est aujourd'hui le jeune prodige de l'équitation française. Il pratique le parcours complet, la discipline la plus exigeante. À peine 21 ans, il porte de grands espoirs et enchaîne les titres mondiaux dans un sport où l'expérience est maître. J'ai été impressionné par sa maturité. Victor est un homme réfléchi, serein, qui sait ce qu'il veut. C'est sûrement la meilleure personne pour parler d'équitation sur le podcast, donc j'espère que vous allez adorer tout autant que moi. Juste avant de commencer, j'ai deux messages à vous faire passer. Comme vous savez, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens pour les convaincre de participer, c'est de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast via les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur iTunes ou Apple Podcast. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à aller trouver des sportifs incroyables. Comme je le dis souvent, un exploit se fait toujours grâce à un excellent public. Donc je compte sur vous. Si vous écoutez le podcast sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram. Taguez-moi et je vous repartagerai. Donc je vous rappelle le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast, suivez-le, vous y retrouverez les coulisses du podcast. Sachez que c'est aussi un excellent moyen pour me faire vos retours et me suggérer des gens que vous souhaiteriez que j'interviewe. Enfin, j'ai aussi une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant extraterrien newsletter, c'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel et préparation mentale, je vous recommande aussi plein de bons plans, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, fini avec la promotion personnelle et je laisse place à mon invité du jour, Victor Lévesque.
Salut Victor.
Salut.
Merci beaucoup de me recevoir dans ton écurie.
Avec plaisir.
Ouais, je suis vraiment hyper content de te rencontrer. Comme je te l'ai dit, je suis pas monté sur un cheval depuis très longtemps, donc ça me rappelle des souvenirs d'enfance assez émouvants en tout cas. Et la deuxième raison, c'était que, bah, comme je te le disais, je voulais changer un petit peu d'univers, découvrir un nouveau sport. Et je suis tombé un petit peu sur toi par hasard en faisant des recherches un peu sur Internet, en cherchant quels étaient un peu les espoirs dans l'équitation. Et je suis tombé sur toi. Donc je suis vraiment très content parce que j'ai plein de questions un peu naïves parce que je connais pas bien le sport.
Ouais.
Et en tout cas, pour commencer, avant qu'on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet et de savoir d'en savoir un petit peu plus sur toi, je commence toujours par une même question un peu traditionnelle, qui est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Alors, je me souviens très bien de la première fois où j'ai monté un poney. C'était un Shetland à l'époque, j'avais 4 ans. Et je me souviens que, en fait, j'aimais pas ça. Je me souviens que d'une chose, c'est que je me roulais dans le manège.
Ok.
J'ai pas passé la séance sur le poney, mais par terre. Et puis après, il y a eu un déclic forcément.
Ok, d'accord. C'est trop... Mais en fait, ça te plaisait pas du tout, mais qu'est-ce qui a fait que ça continue ?
J'ai toujours aimé être au contact des poneys, des chevaux, même quand j'étais plus petit. En fait, cette passion, je la tiens de mon père, qui lui était un grand passionné. Et puis voilà, après, avec le temps, il s'est tourné plus dans le monde des affaires et il en a pas fait son métier. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a toujours été passionné des chevaux. Moi, je suis né à Paris. Ouais. Et puis après, on a déménagé dans la région parisienne avec ma famille. Et bon, bah voilà, il se trouve que le cadre a fait qu'il y a beaucoup de chevaux ici. Donc c'est comme ça que... On m'a mis assez tôt sur un poney et en fait, je crois qu'au début, j'avais un peu peur, j'avais un peu d'appréhension.
Ouais.
Voilà, et puis mes parents m'ont dit, bon Victor, t'as commencé, va au moins jusqu'à la fin de ton trimestre, quoi. On va pas s'arrêter juste sur un échec comme ça. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un certain déclic et après, c'est parti à fond.
Ok, trop cool. Donc tes parents connaissent un petit peu ce sport et
mon père, oui, ma maman pas du tout.
Okay.
Elle a monté un tout petit peu, je crois, 2-3 fois en étant plus jeune, mais voilà, elle m'accompagne énormément, me suit évidemment dans toute cette aventure, mais n'est pas cavalière.
Ok, d'accord. Et ton papa, du coup ?
Mon papa, du coup, montait beaucoup en étant plus jeune. Il a arrêté complètement. Il s'était remis à cheval il y a 5-10 ans. Et puis après, voilà, malheureusement, le temps a eu raison de ça. Et aujourd'hui, il me suit énormément, évidemment, sur tous les concours, dans le développement de mon projet, aux écuries, etc. C'est vraiment un projet familial, mais il manque plus.
Ok, d'accord. Bon, ouais. on va en parler un petit peu plus tard. Mais tu sais d'où, comment est venu un peu ce déclic ? Qu'est-ce qui fait que t'as aimé ça ou...
Franchement, j'aurais du mal à vraiment mettre des mots sur ça. Je pense que déjà, bon, il y a eu évidemment toujours ce plaisir et ce contact avec les chevaux qui étaient là, donc je pense que ça a forcément joué. Et puis je crois aussi que j'ai eu la chance de tomber sur un bon moniteur à l'époque.
Ouais, ouais.
Je pense que ça joue énormément, en tout cas quand on apprend un nouveau sport, ou même je sais pas, souvent on dit, je sais pas, on a eu un super prof en maternelle, on est content, et c'est comme ça que ça marche. Je pense que quand on a une bonne expérience au départ avec quelqu'un qui nous donne envie, qui nous donne de la confiance, je pense que c'est vraiment le secret de la réussite.
Ok, d'accord. Bon, bah, on tire le chapeau alors à ton moniteur de l'époque, en tout cas. Je crois que tu es arrivé assez vite à faire de la compétition, assez jeune. Tu te souviens un petit peu de cette transition-là, de la pratique un petit peu loisir, du petit garçon que tu étais, finalement à la pratique plus en compétition?
Bah, c'est vrai que du coup, j'ai commencé à l'âge de 4 ans et je pense que mes deux premières années, c'était vraiment de la confiance, se sentir à l'aise, monter à poney. Et puis plus le temps passait, plus j'aimais ça, plus j'avais envie d'en faire plus, de continuer. Et en fait, du coup, nous, quand on commence au tout petit niveau, on est vraiment dans le club. Oui. Donc c'est des leçons à plusieurs, en file indienne, etc. Et assez vite, j'ai eu envie de... Je disais toujours à mon père, bon, j'ai envie d'être tout seul, j'ai envie de sauter, j'ai envie de galoper. Et j'ai très tôt, en fait, envie d'essayer d'être dans une démarche un peu plus amateur et puis après professionnelle, mais voilà, de vraiment faire un sport et pas juste un loisir. Et du coup, on a cherché s'il y avait une écurie qui proposait des cours pour... moi, j'étais petit, donc à poney, et pour vraiment apprendre à monter à cheval et avec un objectif de compète. Et puis, il se trouve que juste à côté de mon école, il y a une écurie qui venait de s'ouvrir. Et ils avaient le projet de créer une équipe de compétition Shetland. C'est des compétitions qui se déroulaient à 4. Il leur manquait un cavalier. Je suis arrivé au bon moment, au bon endroit. Et c'est comme ça que j'ai intégré cette équipe. Et j'ai fait mes premiers championnats de France à 6 ans. Tout est allé super vite.
Ah ouais, génial, quoi. Ouais. Ça s'est emballé super vite.
Ouais, ouais, ouais. Et puis après, j'ai toujours eu cette envie de mêler la passion pour les chevaux et le sport.
Okay.
Et je me souviens qu'en étant tout petit, dès le début, je disais ah oui, moi, mon rêve, c'est de faire les championnats d'Europe à poney. Et puis après, tout évoluait toujours. Et c'est vrai que j'ai toujours eu un rêve, un objectif de compète comme ça.
Et alors, attends, du coup, les compétitions de poney, il y a quoi dedans? C'est du parcours complet comme.
Alors, en fait, ce qui est drôle, c'est que du coup, bah, moi, l'équitation, il y a trois sports olympiques, mais il y a aussi d'autres sports. Hein, et,
il y a une trentaine de disciplines.
Ouais, il y a une trentaine de disciplines, c'est énorme.
Ouais.
Et
tu peux nous dire les trois disciplines olympiques?
Donc, les trois disciplines olympique, il y a le dressage, le saut d'obstacle qui est la discipline la plus populaire et le concours complet justement qui mêle le dressage, le saut d'obstacle et le cross.
Ouais.
C'est un peu le triathlon en athlétisme quoi.
Ouais, mais tu fais bien de faire le parallèle, il y a beaucoup de triathlètes qui écoutent ce podcast, okay. Donc ils vont comprendre, ça va leur parler
voilà,
tout de
suite. Donc c'est vraiment une discipline complète comme son nom l'indique et en fait pareil, j'y suis arrivé complètement par hasard. Ce qui est drôle, c'est que mon père lui, il était plus CSO dans sa formation, dans sa jeunesse. Et puis moi, voilà, les quelques amis que j'avais et la région, c'est une région qui est très tournée vers le saut d'obstacle, le CSO. Et en fait, cette écurie que j'ai rejoint en étant plus jeune, à 6 ans, le directeur était un passionné de complet. Et lui avait le projet et l'objectif de créer cette compétition, cette équipe de compète Shetland en complet. Et donc, en fait, je suis arrivé comme ça dans le complet, mais complètement par hasard. Je crois que ça aurait été du CSO, j'aurais peut-être fait du CSO. Et bon, après, quand on commence à goûter au complet, on ne le lâche pas. Et c'est pour ça que je continue encore aujourd'hui.
Ok. Donc, ouais, tu l'as dit, dans le parcours complet, il y a une première étape qui est du dressage. Donc,
exactement.
En fait, vous présentez...
Voilà, c'est des figures imposées qui sont plus ou moins techniques suivant le niveau d'épreuve. Et on est évalué face à un jury. Donc,
avec des notes.
Exactement. Ça peut être un petit peu comparé avec le patin à glace ou... ou autre quoi. Voilà, c'est une discipline, enfin une épreuve dans laquelle on demande vraiment du lien, de la relation entre le cavalier et son cheval, de l'harmonie et puis une maîtrise technique imposée quoi.
Ok, génial. Et du coup, le deuxième jour, c'est le cross?
Le deuxième jour, exactement, c'est le cross. Donc là, c'est dans la forêt ou dans les champs. C'est un parcours qui est plus éprouvant. C'est des longues distances. C'est un parcours qui demande beaucoup de courage, de tenue dans l'effort des chevaux. On saute des obstacles qui sont fixes, donc qui ne tombent pas, donc il y a une maîtrise de la vitesse, du tracé qui est hyper important, sinon forcément on est amené à tomber. Et donc cette épreuve qui est hyper éprouvante, le lendemain, il y a le saut d'obstacle. Et alors là, on demande aux chevaux de respecter justement les barres, parce que les barres tombent, mais une barre qui tombe, c'est des pénalités. Ouais. Donc voilà, tout l'enjeu du cavalier de complet, c'est de réussir à préparer au mieux son cheval, pour que le lendemain du cross, généralement les chevaux sont courbattus, fatigués, on arrive à les amener de la meilleure manière possible pour réaliser le parcours d'obstacles. Quoi.
Ok, d'accord. Et tu disais que quand on goûte au parcours complet, on a pris le virus et qu'après c'est difficile de revenir en arrière. Mm. Tu sais pourquoi tu as eu le virus et tu sais ce qui te plaît le plus, toi, dans cette discipline?
Je crois que ce qui me plaît le plus dans cette discipline, c'est il y a deux choses. Il y a déjà, je crois que c'est une discipline qui est tellement exigeante et complète, comme son nom l'indique, qu'elle oblige d'avoir une vraie osmose avec son cheval ou ses chevaux, quoi.
Ouais.
C'est vrai qu'on doit les entraîner, les préparer à faire des épreuves qui sont tellement différentes les unes aux autres, que c'est des heures et des heures de travail. Alors c'est comme tous les sports bien sûr, mais c'est vrai que on s'entraîne sur plein de domaines qui sont super différents et c'est vrai qu'en concours complet on a une vraie relation avec nos chevaux qui est assez magique et moi ça me plaît énormément. Et puis si on fait du complet aussi bien sûr c'est pour le cross puisque c'est la seule discipline qui n'est présente que dans le complet.
Ouais.
Donc voilà, moi je suis un passionné de cross mais pas que, j'aime vraiment les trois et ce qui me plaît le plus c'est justement cette combinaison des trois épreuves avec son cheval. Je trouve que c'est incroyable.
Ok. Et est-ce que c'est tu t'entraînes trois fois plus on va dire qu'une autre discipline équestre? Parce que tu vois, dans le triathlon, c'est bien connu. Hein, dans le triathlon, il y a trois sports, donc faut s'entraîner trois fois. Donc t'as fait la métaphore tout à l'heure. Est-ce que là aussi t'as beaucoup plus d'entraînement? Tu passes beaucoup plus de temps avec ton cheval?
Je crois pas. Je pense que quand on pratique l'équitation en compétition et qu'en tout cas on vise le haut niveau, l'entraînement c'est le même. Par contre, forcément, il est plus ou moins adapté, spécifique en fonction de sa discipline. Nous, ce que j'aime aussi en concours complet, c'est que je crois que on est obligé, de par l'essence de la discipline, de respecter énormément nos chevaux. On est énormément à l'écoute de nos chevaux parce que, étant donné que c'est une discipline qui est exigeante, on ne peut pas se lancer sur un complet sans avoir un cheval qui est prêt et entraîné. C'est pas possible.
Ouais,
de même que si on répétait bêtement les concours, il y a forcément un cheval, à un moment, on arrivera à la blessure du cheval. Ouais. On est obligé d'avoir cette notion de préparation, cette notion de compétition et cette notion de récupération qui est hyper importante. Donc, forcément, voilà, il y a les trois épreuves. Donc, on doit s'entraîner sur les trois épreuves. Alors 60-70% du boulot, ça reste le travail sur le plat, sur le dressage.
D'accord.
Parce que c'est la base forcément de l'enseignement de l'équitation. Après, il y a aussi un énorme travail sur la condition physique du cheval, sur le fond. Donc ça, c'est des galops, sur une piste de galop avant les compétitions, ou alors si tu seras à faille de fond, donc du travail en extérieur, en forêt, une à deux fois par semaine.
Ouais, comme un coureur rapide, en fait, qui va travailler son endurance.
Je pense qu'on peut vraiment faire le parallèle là-dessus, et puis finalement, on saute assez peu. Généralement, il y a une ou deux séances avant le concours, mais c'est pas quelque chose qu'on fait beaucoup. Après, nous, la période d'hiver, c'est la période qui est plutôt creuse en termes de compétition, puisque c'est un sport qui est pratiqué à l'extérieur, donc on n'a pas de concours l'hiver dû aux intempéries. Et puis, dans cette période-là, généralement, on fait un peu moins de physique. Par contre, on peut essayer de s'améliorer un peu sur l'obstacle.
D'accord.
Mais en période de compétition, on saute pas beaucoup.
Ok, d'accord. Bah, c'est marrant. J'aurais pas du tout dit ça comme répartition. C'est hyper intéressant. Et toi, tu peux nous dire un petit peu la relation que t'as avec tes chevaux. Je crois que t'en as plusieurs. Tu m'as dit. Et comment est-ce que tu les choisis? Comment est-ce que tu les conditionnes un petit peu tout au long de l'année? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça? Parce que ça va en surprendre plus d'un, je pense, parmi les auditeurs.
Alors, ce qui est aussi passionnant et très difficile, c'est que un cheval de complet, ça existe pas à la base.
Ouais.
Ça le devient. Mais quand on fait que du dressage ou que du CSO, on recherche vraiment des aptitudes très spécifiques pour une épreuve.
Ouais.
Nous, en complet, on a les trois épreuves. Donc, le cheval, il n'est pas cheval de complet. Par contre, il le devient et souvent, c'est des chevaux qui adorent ça. Alors, moi, je dis souvent que j'ai 5 critères pour choisir mes chevaux. Alors après, on les place dans l'ordre qu'on veut et je pense que tous les cavaliers ont plus ou moins les mêmes critères. Ce que je vais regarder, c'est forcément la génétique. Est-ce qu'il a du sang? Alors nous, quand on dit est-ce qu'il a du sang, c'est est-ce qu'il a de la tenue, est-ce qu'il a du foncier. Ça, c'est quelque chose qui s'améliore avec le travail, mais c'est soit des chevaux qui l'ont, soit ils l'ont pas. Donc on a des races assez spécifiques, nous, pour le concours complet, généralement les anglo-arabes ou quoi. Voilà, c'est des chevaux qui ont beaucoup de sang, un bon cardio pour faire forcément le cross. Après, on regarde la santé, forcément. C'est des épreuves qui sont exigeantes, donc on essaye toujours d'avoir des chevaux les plus sains, les plus solides possibles. Si on part avec un cheval, mais ça, je pense que c'est comme dans tout sport, hein, un sportif qui part avec des problèmes physiques,
qui se blesse souvent.
Généralement, la carrière, elle est pas très longue. Après, on regarde le modèle, les allures par rapport au dressage. On regarde la qualité de saut par rapport à l'obstacle, au cross, et puis le mental. Après,
mental pour un cheval.
Ah ouais, c'est hyper important.
Ouais.
Et c'est ce que j'allais dire. En fait, je crois que il y a deux choses qui sont très difficilement mesurables, mais qui font toute la différence. C'est le mental du cheval. C'est-à-dire, est-ce qu'il a envie de se donner pour son cavalier? Est-ce qu'il aime ce qu'il fait? Est-ce que quand il entend la sonnette avant un départ, il se transcende pour réussir? Ça, c'est quelque chose qui est super important parce que pour un cavalier, un couple en tout cas, moi je crois beaucoup plus à un cheval qui peut-être au départ présente un peu moins d'aptitude qu'un autre, mais par contre qu'a le mental, il ira toujours plus loin qu'un cheval qui a toutes les qualités du monde où on se dit ah c'est le champion, par contre s'il a pas le mental il ira jamais au bout.
Okay.
Donc le mental c'est quelque chose qui est très 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 important, et l'autre aspect pareil qui est très difficile à mesurer, c'est la relation cavalier-cheval, c'est le feeling qu'il y a entre le couple.
Ouais.
On voit, hein, on peut être le meilleur cavalier du monde, monter le meilleur cheval du monde, s'il n'y a pas d'osmose, il se passera rien. Par contre, on peut être un très très bon cavalier, monter un cheval sur le papier ou d'après les résultats qui n'a pas été le meilleur, mais s'il y a cette alchimie, cette osmose, ça peut faire des couples d'exception, quoi. Donc c'est vrai que c'est aussi ça qui est passionnant, c'est qu'il n'y a pas de règles très définies.
Okay.
En fait, c'est avant tout une histoire de relation. Bien sûr, il faut des qualités, hein. Les chevaux, les 30 meilleurs chevaux du monde en complet, c'est des chevaux qui sont exceptionnels. Faut pas imaginer qu'on peut prendre un cheval d'un club et l'emmener faire ce niveau-là, c'est évident. Mais par contre, il y a cette notion de mental du cheval et de relation cheval-cavalier qui est déterminante, quoi.
Ok, et t'as dit que c'était dur à mesurer, mais toi t'as des petits trucs, des petites astuces perso un peu de... Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là, en fait?
J'ai vraiment du mal à mettre des mots sur ce que je ressens. Je crois que c'est quelque chose qui est assez inné. C'est comme avec une personne, on peut avoir tout de suite un certain feeling, ou pas, il y a vachement d'appréhension, de sensation, d'écoute. Mmh. Les chevaux, ils parlent pas, mais par contre, ils délivrent beaucoup de choses. Et ça, nous, en tant que cavalier, on le ressent, on le voit. Donc, je pense qu'il faut du temps aussi pour mesurer tout ça. Ça se fait pas en un claquement de doigts. Hein. Généralement, on dit qu'il faut un an pour connaître son cheval.
Ok. Ah ouais, donc
c'est un peu le dicton. On dit qu'il faut un an pour vraiment connaître son cheval. Donc voilà, c'est quelque chose qui se mesure pas forcément, qui peut se développer avec le temps. Mais je crois quand même au départ, s'il y a des atomes crochus, ça prévoit de belles choses, quoi.
Ok. Et ça arrive souvent, ouais, des cavaliers justement qui vont acheter un cheval et l'essayer pendant un an et puis.
Non.
Et puis il n'y a pas le feeling.
C'est très rare qu'on puisse essayer un cheval avant de l'acheter ou quoi. Après, ça arrive très souvent qu'un cavalier achète un cheval et puis qu'on se rende compte que ça correspond pas. Non pas parce qu'il n'est pas bon. Alors, ça peut arriver qu'il ne soit pas assez bon par rapport au niveau qu'on souhaite atteindre, ou alors que ce soit un très bon cheval, mais que la relation ne se fasse pas.
Ouais.
Dans ce cas-là, le cheval ira trouver un autre cavalier et pour le meilleur de tous, quoi. Mais oui, ça arrive souvent. Ça arrive souvent de se tromper. Ouais.
Ok. Et toi aujourd'hui, t'as 6 chevaux. J'avais vu une interview de toi où tu disais qu'il y en avait deux avec qui tu avais une relation un petit peu plus particulière. Mmh. Un avec lequel tu t'es qualifié pour les JO et l'autre avec qui tu as plus fait ton parcours sur le long terme. Est-ce que tu as le temps de monter les 6? Comment est-ce que tu les entraînes un petit peu?
Ouais, alors moi effectivement je me suis fixé comme objectif d'avoir un piquet de 6 chevaux. Il y a des cavaliers qui en ont beaucoup plus, d'autres moins. Moi j'estime que c'est on va dire le nombre nécessaire que je peux vraiment assumer parce que moi j'aime passer beaucoup de temps avec mes chevaux. C'est okay. Quasiment que moi qui les monte, donc voilà.
Il y a des cavaliers qui en ont beaucoup plus?
Ah oui, il y a des cavaliers qui en ont beaucoup plus. Hein. Ça, c'est vraiment en fonction de chacun. Hein. Je pourrais en avoir plus, j'ai pas envie d'avoir plus parce que j'essaie vraiment de privilégier, on va dire, la qualité, le projet sportif plutôt que la quantité. Ouais. Quoi. Après, sur les 6 chevaux, ils ont tous des profils bien différents. J'ai effectivement mes 2 chevaux de tête. Donc Mac, qui est le cheval qualifié pour Tokyo, et Funambule, qui a été mon premier cheval. C'est un peu mon cheval de cœur puisque c'est lui qui m'a permis de franchir toutes les étapes. Et puis derrière ça, j'ai des chevaux qui sont plus jeunes, qui ont été achetés avec des objectifs à plus ou moins long terme et qui sont plus là pour assurer et préparer la relève.
D'accord.
J'en cherche encore aujourd'hui puisque dans justement ces chevaux que j'ai choisis, il y en a qui correspondent pas, je m'en suis rendu compte au projet. Donc aujourd'hui, je recherche 3 chevaux. On va dire que j'ai 3 chevaux qui sont vraiment bien identifiés dans mon piquet. Mac et Funambule, un jeune cheval. Et là, en ce moment, je suis à la recherche justement de 3 nouveaux chevaux pour venir compléter ce piquet.
Ok, ouais, génial, c'est hyper intéressant. Et le fait que tu gardes pas un cheval, on va dire, c'est peut-être dû à la fatigue et au rythme des saisons qui est assez intense.
Alors, on pourrait monter qu'un cheval, mais c'est vrai qu'on est dans une démarche vraiment professionnelle et de sport à haut niveau. Ouais. Naturellement, on est obligé d'avoir plusieurs chevaux pour 2 raisons. La première, c'est que, bah, comme tu l'as dit, on essaie d'avoir le plus de chevaux de tête possible parce que s'il y a une blessure, alors on évite toujours, hein, ça arrive qu'on n'en ait pas, hein. Moi je touche du bois, pour le moment j'ai jamais de blessure. Okay. Mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte comme tout sportif. Mais voilà, si on n'a qu'un cheval avant une grosse échéance et qu'il y a une blessure, forcément on passe à côté de l'épreuve. Donc on essaye d'avoir généralement 2-3 chevaux de haut niveau. Et c'est un autre avantage, c'est que ça permet justement aux chevaux de souffler, de leur les donner encore plus de temps de récupération pour pouvoir tourner. Et puis on essaye aussi d'avoir généralement 2-3 jeunes chevaux justement pour assurer la relève.
Okay.
Si on se concentre que sur les chevaux de tête, le jour où ils partent à la retraite et qu'on n'a pas assuré la relève, comme je te l'ai dit, ça met du temps de trouver un cheval. Il faut un an pour se mettre avec. Donc naturellement, on sort complètement du système. Donc, après, là, ce que je te dis, c'est le monde idéal, bien sûr.
Ouais.
Mais voilà, on va dire que l'idéal, c'est 3 chevaux de tête, 3 jeunes chevaux, quoi.
Ok, d'accord, ok, génial.
C'est un peu le...
Ouais, et en moyenne, un cheval, il peut être au top niveau pendant combien de temps?
Alors là encore, il y a beaucoup d'aléas, il n'y a pas de règles vraiment strictes, ça va dépendre de à quel âge il a commencé, qu'est-ce qu'il a fait dans sa jeune carrière, mais en gros, le schéma classique, les chevaux, ils peuvent commencer le circuit des jeunes chevaux à 4 ans. Ils sont considérés comme jeunes chevaux jusqu'à 7 ans, donc 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, il y a des championnats de France, des championnats du monde, des jeunes chevaux. Généralement, on dit qu'un cheval arrive à maturité à 8-9 ans, jusqu'à 15-16 ans. Voilà, après, ça, c'est sous réserve qu'il n'y ait pas eu de blessure ou quoi. Hein, mais voilà, je dirais qu'un cheval arrive vraiment à maturité pour le top niveau à 8-9 ans et il peut le faire jusqu'à 16-17 ans.
Ah ouais, donc il a quand même une carrière assez longue et c'est pas éphémère du tout. Ouais.
Non.
Ouais, c'est hyper intéressant. Et Et là, aujourd'hui, du coup, on en parlait juste avant, tu t'es qualifié pour les JO avec un de tes chevaux. Max, c'est ça ?
Exactement.
Ouais. Mais par contre, ouais, là, c'est, tu n'es pas forcément sélectionné parce que tu, c'est la, la fédération qui doit le choisir.
Ouais.
Et toi, tu me disais, c'est pas grave parce que je n'avais pas du tout prévu. Alors, j'étais un peu surpris. est-ce que tu peux rapidement expliquer aux auditeurs comment, comment fonctionne le, la sélection ? Et toi, comment est-ce que tu le, l'insères dans ton plan de carrière, en fait ?
Exactement. Donc, comme tu as très justement dit, il y a deux choses qui sont bien différentes. Il y a la qualification d'une part et la sélection d'autre part. Donc, 2020, il y a les Jeux Olympiques à Tokyo. Ça veut dire que dans le schéma, en fait, jusqu'au 31 décembre 2019, chaque couple de chaque pays dans le monde pouvait se qualifier. Une fois que chaque couple s'est qualifié, la fédération donc a sa liste des couples. Nous en France, on est une douzaine. Et après, on va dire que bon, bien sûr, la sélection elle se fait sur plusieurs années, mais en gros, du 1er janvier jusqu'à jusqu'au mois de juin, annonce de la sélection officielle. Bah voilà, chaque couple a un peu un programme de saison. La fédération regarde, scrute. Il y a beaucoup de stages, etc. Et fin juin annonce la sélection. Donc quand on est qualifié, ça ne veut pas dire qu'on part aux Jeux Olympiques. Par contre, ça veut dire qu'on y met un pied quand même. Voilà. Après, comme tu l'as dit, moi, c'est quelque chose qui n'était pas forcément prévu au départ. Je suis encore très jeune. L'équitation, c'est plutôt un sport d'expérience par rapport à d'autres sports. Et en fait, moi, jusqu'à cette année, j'étais encore considéré comme jeune. Donc, j'étais dans le circuit des jeunes, ce qu'on appelle les jeunes cavaliers jusqu'à 21 ans. Donc voilà, j'ai fait tous les championnats, enfants, juniors, jeunes cavaliers, encore cette année. Et en fait, il se trouvait que j'avais un cheval qui allait très bien, donc j'avais mes deux chevaux, Mac et Funambule. Dès le début de la saison, on avait décidé de garder Funambule pour les championnats d'Europe jeunes cavaliers. Et l'idée, c'était de profiter de, du bon état de forme de Mac, justement, pour commencer à aller sur le circuit senior.
Okay.
Il se trouve que les résultats ont été super encourageants, super satisfaisants. Moi, je reste un super compétiteur et voilà, j'ai la chance d'avoir un super cheval. Donc, en fait, au fur et à mesure de la saison, on est monté, monté en puissance jusqu'à obtenir d'une belle manière cette qualification pour les Jeux.
Ouais.
Donc là, les cartes ont été complètement redistribuées. Voilà, donc pour moi, c'est une opportunité extraordinaire. C'est évidemment quelque chose auquel je pense tous les jours. Dès que je monte, j'ai que ça en tête. Maintenant, j'ai pas la prétention déjà de dire que je vais y aller. Je suis un candidat sérieux, mais je suis encore très jeune dans l'expérience, etc. par rapport aux autres. La, peut-être la, l'opportunité que j'ai, c'est que on est dans une année où il y a eu plein de nouveaux couples qui sont émergés. Il y a eu d'autres années, il y avait vraiment des couples qui étaient très solides, des piliers. Depuis deux ans, nous en équitation, c'est un petit peu différent, ce qui est très positif. Il y a plein de nouveaux cavaliers qui arrivent, des chevaux qui arrivent. Il y a eu un peu un renouvellement de génération. C'est ce qui redistribue aussi un petit peu les cartes. Mais voilà, après, moi, j'essaye toujours de structurer les choses. En fait, depuis le départ, avec mon équipe, ma famille, on a toujours essayé de vraiment structurer les choses. Là, il y a vraiment une stratégie qui a été définie pour Paris 2024, qui est l'objectif vraiment assumé de moyen terme. Maintenant, Tokyo est venu se mettre sur la route. c'est magique. Je le considère plus comme un boost, tu vois. C'est une source de, d'adrénaline, de dynamique supplémentaire. Maintenant, je suis aussi conscient et lucide de ma situation. Si j'y vais, c'est extraordinaire. Comme je te le disais, si j'y vais pas, je serais pas déçu. J'ai plein d'autres objectifs. Je crois que c'est, voilà, c'est dans le parcours, dans le développement de ma carrière. C'est venu se mettre sur la route. On va tout faire pour y aller, évidemment. Mais voilà, c'est arrivé un petit peu comme ça, quoi.
Ouais. Mais en tout cas, moi, je suis bluffé par ton calme et ta maturité, tu vois, par rapport à ça. C'est vrai que, tu vois, quand on tape ton nom un peu sur Internet, on voit, voilà, le petit prince de l'équitation. On se dit, voilà, c'est la future superstar et tout. Je crois que t'as fait une super saison cette année, là. T'es dans les 50 meilleurs mondiaux, tu vois. Et comme tu l'as dit, bah, tu viens d'avoir 21 ans. Et sur ton, dans le classement, il y en a qui ont 50, 60 ans.
Ouais, c'est un sport qui peut se pratiquer.
Qui dure. Donc, moi, je suis assez bluffé. Et du coup, je voulais te demander, selon toi, c'est quoi les qualités qu'il faut pour être un excellent cavalier ?
Je pense que déjà, il faut être avant tout un homme de cheval. Alors, quand je dis ça, c'est que... Non, mais quand je dis ça, c'est qu'il faut avant tout aimer les chevaux. Ça, c'est pour moi la base. Ça paraît peut-être bête, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Moi, évidemment, je suis passionné par mon sport. Mais ce que j'aime avant tout, c'est être avec mes chevaux. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en soi.
Ouais.
Et puis après, je crois que un bon cavalier, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a cette capacité de travail, de rigueur, de répétition. parce que on passe des centaines d'heures pour une épreuve qui dure que quelques secondes, voire quelques minutes pour le dressage qui est un peu plus long. Donc il y a aussi cette notion de, je pense qu'il faut être calme, et puis il faut surtout savoir se remettre en question. Alors nous, on a la chance, c'est que souvent les chevaux nous remettent en question directement. Mais voilà, c'est un sport qui est atypique. C'est le seul sport mixte aux Jeux Olympiques. Et c'est un sport qui se pratique à deux, dans le sens où on est avec un animal qui est le cheval. Donc je crois qu'il faut toujours être à l'écoute du cheval. Au final, c'est lui qui nous dicte un petit peu où on va, comment on y va. Et voilà, c'est un... à partir du moment où on est respectueux de son cheval, qu'on s'entraîne et qu'on est humble, je crois qu'il y a déjà pas mal de choses pour réussir.
Ok, ouais. Voilà, en tout cas, c'est marrant que tu commences par le fait de dire que le fait d'aimer les chevaux. Moi, tu vois, je me suis beaucoup interrogé sur quels étaient les bons intervieweurs, tu vois.
Ouais.
Et la première réponse qui revient toujours, c'est aimer la personne que t'interviewes.
Ouais,
tu commences par.
Bien
par
sûr.
Ouais. Bon, je touche du bois, ça marche plutôt bien pour l'instant. Mais c'est, enfin, du coup, je fais un peu le parallèle par rapport à ça. Oui. C'est hyper intéressant. Et vis-à-vis d'un cheval, t'as mentionné un petit peu les qualités. Et est-ce que tu vois un petit peu chez d'autres compétiteurs ce qui marche bien dans un duo, dans un couple, entre un homme et un cheval? Peut-être pas forcément chez toi, mais quand tu le regardes parmi d'autres cavaliers.
Bah, je crois que déjà chaque cavalier a un petit peu son type de cheval.
Ouais.
Voilà, on n'aime pas tous les mêmes chevaux. On est plus sensible à telle ou telle qualité plutôt qu'un autre, aussi au modèle. Moi, j'aime plutôt monter des petits chevaux, toniques, dynamiques. Il y en a qui préfèrent les grands chevaux avec beaucoup de force. Voilà, je crois que ça, c'est vraiment à l'appréciation de chacun. Et puis après, ça reste une histoire qui est très personnelle au final.
Ouais.
Donc, il y a évidemment la relation cavalier-cheval qui est déterminante, mais il y a aussi tout ce qui va avec, la qualité de l'entraînement, la qualité de l'équipe, parce qu'on parle tout le temps du cavalier, du cheval, mais il faut savoir que derrière ce couple-là, il y a énormément de monde qui travaille et qui sont essentiels. Je crois que j'avais compté une fois comme ça pour rigoler. Moi, dans mon écurie, autour de mes 6 chevaux, il y a peut-être une quinzaine de personnes.
Ouais, et c'est quoi les rôles clés? C'est hyper.
Alors, pour moi, tout le monde a un rôle qui est clé.
Ouais.
Alors forcément, il y en a qui sont un petit peu plus mis en avant que d'autres, mais il y a évidemment les vétérinaires.
Ouais.
Le maréchal ferrant, le nutritionniste, l'ostéopathe, le kiné, le masseur, et puis il y a aussi qui sont un petit peu plus mis en avant ce qu'on appelle les grooms. Okay. Moi, je travaille avec ma groom depuis que je suis tout petit, elle me connaît depuis le départ, donc elle connaît vraiment mes chevaux par cœur. C'est vraiment la personne qui s'occupe des chevaux au box, dans les soins. Alors je pense que c'est très important que le cavalier le fasse aussi, mais c'est vrai que nous, on monte beaucoup de chevaux. En concours, on n'a pas le temps de s'en occuper avant, après, parce qu'on passe plus de temps à s'occuper des chevaux qu'à les monter.
Ouais.
Donc, la groom, c'est une personne qui est déterminante dans ce couple, parce que c'est elle qui connaît les chevaux par cœur. Nous aussi, en tant que cavalier, on les connaît.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Et par cœur, mais plus à cheval.
Ouais.
La groom, elle va rentrer dans l'écurie tout de suite au box, elle va voir. Ah, il y a ci, il y a ça, je le sens comme ci, je le sens comme ça. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui est omniprésente dans le concours parce qu'elle est avec moi à tous les concours, tous les jours, tout le temps. On passe notre vie ensemble. Mais elle a aussi un certain recul.
Okay.
C'est pas elle qui me coach, mais elle voit. Tu
ouais.
vois? Donc, c'est okay. quelqu'un qui est super important. Moi, j'ai une confiance aveugle dans ma groom Éléonore. Elle est là depuis le départ. Elle connaît exactement les chevaux. Voilà, on travaille vachement en duo. Et puis après, dans l'équipe, bah, il y a aussi évidemment les entraîneurs. Il y a le staff de l'équipe de France, il y a les propriétaires, il y a les sponsors, enfin voilà, c'est vraiment une grosse famille, c'est une vraie aventure qui embarque beaucoup de monde et je pense que tout le monde a un rôle qui est essentiel.
Bon, en tout cas, tu fais bien de le mentionner parce que c'est vrai que moi je le vois un petit peu de l'extérieur, des fois les gens pensent que c'est un sportif un peu tout seul et que tout le monde les aide gracieusement et tout, mais en fait non, c'est toi tu constitues une équipe. et tu as des rôles clés et c'est des gens qui sont un petit peu dans l'ombre, tu vois. Et,
ouais, bien sûr. Bah, c'est forcément.
Mais c'est pour un projet collectif. Ah, et, ouais. Voilà. Et
toi, c'est ça qui est fou, c'est que ces personnes-là, pour moi, elles ont vraiment un rôle qui est essentiel. Moi, au final, je suis plus un petit peu le chef d'orchestre. J'essaie de m'entourer des bonnes personnes. Des personnes en qui j'ai confiance, des personnes qui adhèrent au projet, c'est des projets vraiment de long terme, c'est des projets de vie, quoi. Moi, Eleonore, elle est avec moi matin, jour, nuit, tous les jours, tout le temps, quoi. Elle a fait son projet de vie tourne autour de moi et de mes chevaux, quoi. Donc, c'est vraiment une aventure qui est assez folle et il faut évidemment être conscient que c'est pas que le sportif, même si au final, sur les photos et les interviews, on parle toujours du sportif, mais il y a avant tout les chevaux, parce que sans les chevaux, l'aventure, elle n'existe pas. Et il faut vraiment être conscient de toute l'équipe qui est derrière. Sans une équipe, c'est impossible de faire carrière, je crois, dans le sport et dans le haut niveau, en tout cas.
Ouais, clairement, ouais, clairement. Et toi, tu te vois continuer, du coup, faire ça pour les 30 années qui arrivent, là. Le projet, il est sur combien de temps, hein? Tu nous as parlé de Paris, forcément.
Ouais, parce alors.
Que ça touche tout le monde, mais.
Moi, j'ai toujours dit, en étant plus petit, mon rêve, c'est d'être champion olympique.
Ok.
Donc, c'est un rêve. Maintenant, ce qu'on essaye de faire, c'est se donner les moyens. Réussir. Après, je sais pas si je réussirai, je l'espère, mais en tout cas, on essaie de construire les choses et d'organiser les choses pour y arriver. Alors, faut savoir que pour y arriver, bah, ça va passer par plein de chemins. Il y a des moments qui sont positifs, il y aura aussi des échecs, des moments plus difficiles. J'en ai déjà connu dans ma jeune carrière. C'est vrai que pour le moment, j'ai eu plus de succès que d'échecs, mais je crois que les échecs, ça fait toujours rebondir et ça fait avancer. Moi, ça a été le cas, en tout cas, dans le début de ma carrière. Donc après il faut aussi être conscient que chaque temps correspond à une étape. Les chevaux que j'ai achetés il y a un an, il y a deux ans, c'est peut-être pas les chevaux que j'achèterai ou que je récupérerai dans un an ou dans deux ans, parce que j'aurais progressé, parce que j'aurais grandi, parce que j'aurais pris en maturité. Donc il faut vraiment avoir une vision globale. Après, une fois qu'on a ce rêve, bah forcément Paris est venu, on va dire, un peu comme l'étoile au milieu de tout ça, parce que les Jeux en France, c'est une fois tous les siècles. C'est un objectif qui est majeur aujourd'hui. Moi, dans ma stratégie de recherche de chevaux, de partenaires, etc., c'est vraiment axé sur cet objectif là après, il faut pas non plus perdre de vie. C'est un objectif de carrière, mais c'est pas un but de carrière en soi. Ce que je veux dire, c'est qu'au jeu, j'aurai 26 ans. Bon, je serai encore très jeune par rapport à ma discipline. Évidemment que je vais tout faire pour être champion olympique à Paris. Après, imaginons que ça se fasse ou que ça se fasse pas, ça veut pas dire que j'arrête. Moi, j'ai envie de faire ma vie dans les chevaux. On a la chance d'être un sport que l'on peut pratiquer longtemps. Il y a des champions olympiques qui ont 60 ans. Alors, je dis pas que je ferai les jeux à 60 ans, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est vraiment un projet de vie, c'est une passion avant tout. Donc là, l'objectif, c'est Paris, mais j'espère que ce sera les gens de tous les 4 ans, quoi.
Ouais, bah c'est clair. Bah, et puis pourquoi pas le faire deux fois, tiens.
Ah bah, faut être gourmand. 2, 3, 4, 5.
Et tu fais des. De la préparation, toi, un peu, là. Est-ce que tu te prépares un petit peu à côté? Est-ce que tu fais de la visualisation? Est-ce que t'as, une nutrition particulière? Est-ce que tu vas faire un footing tous les matins? Toi, c'est quoi un petit peu tes motos pour t'entraîner?
Alors, je fais pas de footing tous les matins. non, je fais de la prépa mentale. Ça depuis mes premiers championnats d'Europe poney. Donc, j'avais 14 ans, quoi.
Ok.
Voilà, maintenant, c'est devenu un ami. Mais voilà, c'est quelque chose que je fais qui est hyper important pour moi et mon équilibre. Alors après, chacun, je crois que chacun a son système et se connaît. La prépa mentale, c'est pas un gourou qui m'explique comment faire, c'est surtout de l'échange. C'est une personne qui me connaît par cœur, qui est aussi extérieure à tout ce système là donc qui me permet de... Je suis quelqu'un qui intériorise aussi beaucoup les choses et je crois que c'est aussi important parfois de réussir à parler de tout, de ce qu'on a sur le cœur à quelqu'un qui est vraiment extérieur à toute cette sphère-là. Que ce soit ton coach, ton père, le staff, l'entraîneur, etc., c'est pas pareil. Donc voilà, il a ce rôle-là. Et puis on a aussi beaucoup travaillé. Ce qui était super important, je crois, c'est de vraiment se connaître en tant que sportif, en tant que personne, savoir ce qu'on a besoin et ce qui nous dérange. Donc on a vraiment travaillé là-dessus. Et puis ce qui est marrant, c'est qu'on se voit très fréquemment, on s'appelle, etc. Et à chaque fois, à la fin de notre discussion, on se dit bon, bah, ça va, tout va bien. Et puis on se rappelle un mois après, il y a encore plein de nouvelles choses que je lui raconte, quoi. Donc voilà, en tout cas, je travaille sur mon mental, on va dire.
Ouais. Après, tu fais des petits exercices au quotidien ou...
Non, pas vraiment.
Ok.
Pas vraiment, non. je sais que, en fait, je crois que j'en fais peut-être, mais qui sont naturels et acquis maintenant. Quoi.
Moi, bah, quand tu repères un parcours, par exemple, c'est une sorte de visualisation. Et de
ouais, bien sûr. Alors ça, c'est assez instinctif pour moi. Ouais. En tout cas, je sais que je suis quelqu'un qui a vraiment besoin d'être dans ma bulle. Donc, avant une épreuve, une échéance, je vais beaucoup m'isoler, être tout seul, fermer les yeux. Ouais, bah, inconsciemment, je visualise mon parcours, etc. Et puis après, sur la prépa physique, on y est beaucoup sensibilisé, notamment durant les stages, équipe de France, etc.
Ouais.
Je crois que c'est quelque chose que je fais pas assez. J'aimerais bien me donner du temps et ça fait partie de mes objectifs de l'année prochaine aussi pour améliorer encore ma préparation. Alors c'est pas tant de la prépa physique, courir, etc. C'est quelque chose qui est important parce que ça permet de faire autre chose, mais je suis plus attiré par un petit peu tout ce qui est pilates ou quoi, c'est la musculature du dos, les étirements. Ouais. C'est voilà. Un sport qui est physique, mais pas dans le sens, par exemple, comme je sais pas, un triathlon, un tennis, où il y a un effort physique qui est très intense. C'est plutôt un sport de concentration. Ouais. Les compétitions sont super longues. Et puis, c'est monter à cheval, mine de rien, ça a un impact sur bah, voilà, tes os, tes muscles, etc. Et nous, les cavaliers, souvent, on donne tout pour les chevaux, mais on prend pas assez soin de nous, je crois. Donc, c'est quelque chose qui est en train de s'inverser. La nouvelle génération est beaucoup plus sensibilisée. Mais je pense que si on veut... voilà, durer dans le temps et bien se préserver, c'est hyper important de s'étirer et de travailler voilà, proprioception, etc. Quoi.
Ouais, il y a pas mal de cavaliers qui ont des petits soucis de dos petit moment, sûr. Donc il faut essayer de bien les prévenir pour pouvoir durer
exactement.
Dans le temps. Quoi.
Exactement.
Okay. Ok, génial. Et j'ai vu aussi que tu faisais des études à Sciences Po.
Ouais.
Ouais. T'es dans un cursus qui est assez rare d'ailleurs, qui permet en fait aux sportifs de haut niveau de continuer leurs études. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça et toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu étudies rapidement?
Tout à fait. Alors moi, j'ai toujours suivi un parcours scolaire très classique jusqu'au bac. Et puis bon, bah voilà, plus le temps avançait, plus je ratais les cours, les DST, etc. Donc, après le bac, voilà, moi, c'était vraiment un souhait de ma part, pas du tout une obligation de mes parents de poursuivre mes études. Et du coup, j'ai cherché est-ce qu'il y avait des écoles qui proposaient un parcours qui soit aménagé pour les sportifs, parce que forcément, sans ça, c'était impossible de combiner les deux.
Ouais.
Et il y avait deux programmes qui le proposaient, c'était Dauphine et Sciences Po.
Ouais.
Et voilà, au final, je suis allé à Sciences Po, j'ai beaucoup de chance d'y être parce que c'est extrêmement enrichissant et on a la chance d'avoir beaucoup, beaucoup de liberté. Tout est fait pour que le sportif puisse pratiquer son sport au plus haut niveau et en parallèle arrive à allier les études. Donc en période creuse, donc en hiver, j'essaie d'y aller le plus possible, donc j'y vais 2-3 jours par semaine, et en période de concours, j'ai la possibilité de suivre tout à distance avec des profs qui sont archi présents. Ça m'est arrivé de faire un Skype à l'aéroport pour un oral, d'envoyer mes cours par mail, etc. Donc c'est vraiment très très adapté. Les profs font vraiment tout pour nous, quoi.
Bon, bah c'est génial parce que il manque un peu de ce genre de structure, je trouve, en France. Tu vois, là, je fais un peu le tour des sportifs et j'en interview plein et je me rends compte qu'à chaque fois, les études, c'est quand même un petit. Ça peut être compliqué, quoi. Tout est
ouais,
pas
bien
fait
sûr,
pour protéger. Donc, autant les féliciter, quoi.
Franchement, c'est déjà exactement. Je pense que tu as tout à fait raison. Il faut savoir les féliciter parce que, comme tu le dis, je crois qu'il y a assez peu, mine de rien, de programmes. En tout cas, avec une telle souplesse, j'en connais vraiment pas beaucoup. Et après, je crois que c'est quand même hyper important parce que, enfin, pour moi, ça a plusieurs vertus. Déjà, je pense que moi, tous mes copains, après le brevet, ils ont arrêté pour s'y consacrer à fond dans les chevaux. C'est un sport qui demande beaucoup, beaucoup de temps.
Ouais.
C'est pas comme un entraînement de, je sais pas, de tennis. On a une heure, on y va. Nous, c'est du matin au soir. C'est vraiment très, très chronophage, les chevaux. Mais je crois que c'est aussi important de, moi, en tout cas, je vois comme ça, Sciences Po, ça me permet aussi de sortir un peu de mon quotidien. Quand on a tout le temps la tête dans le guidon, bah, il y a un moment, c'est difficile. Ouais. Alors, c'est vrai que de côtoyer d'autres personnes, de parler d'autres choses, il se trouve, enfin voilà, moi je fais Sciences Po à Paris, etc. Pour mon équilibre aujourd'hui, c'est quelque chose qui est super important. Je fais évidemment beaucoup plus de cheval et d'équilibre que de Sciences Po, hein, mais je crois que c'est important de s'ouvrir aussi un peu et de pas être tout le temps le nez dans le guidon. Et puis je pense aussi que maintenant, tous les sportifs de haut niveau, c'est des chefs d'entreprise. Le sport de haut niveau, c'est quelque chose qui coûte très cher, qui nécessite une vraie organisation. Donc pour réussir à mettre tout ça en œuvre, voilà, après chacun fait ce qu'il peut comme il le veut, mais moi je sais que je pense que ça m'apporte beaucoup en termes de réseau, en termes de, enfin voilà, de développement intellectuel, etc. Donc j'ai la chance de pouvoir le faire, ça me plaît beaucoup, voilà. J'essaie de m'organiser au mieux pour le faire.
Ouais, bah, t'as raison de le mentionner. C'est un truc que les sportifs oublient un peu. Ouais, t'es à la tête d'une petite direction.
Ah, bah, complètement.
Et bon, alors toi, c'est sûr que c'est un peu plus gros parce qu'il y a une grosse structure derrière. Il y a des gens, enfin, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Mais même pour un sprinter, quoi. Son kiné, son ostéopathe, son nutritionniste, son préparateur mental.
Bien sûr. Et puis après, moi, je suis un sport. Enfin, je pratique un sport dans lequel on peut faire beaucoup de choses. Ce qu'on disait tout à l'heure, on peut énormément diversifier ses activités. Il n'y a pas que le fait de monter à cheval et de faire du haut niveau. Pour pouvoir faire du haut niveau, il faut un modèle économique qui marche pour avoir les chevaux, etc. Et puis durer dans le temps, c'est ça qui est le plus difficile en sport. Mais dans les autres sports, moi, du coup, à Sciences Po, bah, je côtoie plein de sportifs. C'est aussi super sympa. C'est que moi, je suis dans une promo que de sportifs de haut niveau.
Okay.
Il y a des grands champions. Moi, je me considère comme un petit poussin, quoi. Je suis peut-être un des seuls qui n'a pas fait les jeux encore.
Okay.
Donc, c'est aussi passionnant et enrichissant de pouvoir partager du temps avec tous les autres sportifs et tout. Mais eux, bah, pour la plupart des cas, à 25, 26, peut-être 30 ans, leur carrière sportive s'arrête.
Ouais.
Donc, il y a aussi tout un enjeu de reconversion et de dynamique qui est super importante. Et je crois qu'aujourd'hui, le sport, ça reste... quelque chose qui est super attrayant pour tout le monde, pour le grand public, pour les boîtes, pour les sociétés. Je pense qu'il y a plein de choses à faire là-dedans, quoi.
Ok, ouais, t'as raison. Il y a plus d'écoles qui devraient un peu se mettre aussi sur le créneau d'attirer les sportifs parce que c'est des gens derrière dans l'ensemble, se reconvertissent très bien et qui arrivent avec des assets de vie qui sont hyper, hyper forts. Mais, trop cool, on a abordé plein de sujets. Toi, on a abordé rapidement la structure économique du coup pour une écurie. Tu peux en parler rapidement de comment ça fonctionne. Moi, je suis pour les auditeurs qui me connaissent, toi tu le sais pas, mais j'ai monté plusieurs boîtes avant, donc je suis toujours un peu. J'adore le côté un peu business et de savoir un petit peu comment ça tourne. Mais
alors,
pour une écurie, je suis très curieux du coup.
Il y a pas de. On peut faire plein de choses. Il n'y a pas de règle en soi. Je sais pas s'il y a un modèle qui marche plus qu'un autre. Je crois que chacun le fait en fonction de ce qu'il se ressent et de ce qu'il aime. Nous, en fait, le pari, c'est que, voilà, moi, c'est un projet qui date de longtemps, comme je te l'ai dit. Et en fait, moi, au départ, j'étais arrivé ici, à Radbury, en tant que simple client propriétaire. J'avais mes poneys, etc. Et puis, voilà, le projet grandissant avec ma famille, on s'est dit, bon, bah, on va essayer de passer une étape dans la démarche professionnelle et de s'installer. Et on avait deux choix. C'était soit on achetait ou on créait une structure complètement indépendante, ou soit on passait une étape intermédiaire, et c'est ce qu'on a fait. Et en fait, on s'était dit, bah, on est la chance ici, le Radbury, enfin voilà, ça fait partie des infrastructures équestres les plus incroyables qu'on a en France, parce que bah, on a toutes les conditions pour s'entraîner de la meilleure manière possible qui sont réunies, les manèges, la forêt, les carrières, etc. Et donc en fait, on a construit au sein du Radbury.
Okay.
Donc ça veut dire qu'on a créé un Barnes avec 20 box. C'était une première étape dans le développement de la carrière. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai mes chevaux, j'ai mes box, j'ai mon personnel, je gère mes fournisseurs, etc. Par contre, toute la partie infrastructure, manège, etc., c'est pas moi qui m'en occupe. Donc c'était un investissement qui était du coup forcément moins conséquent au départ. Et c'était une première étape pour se lancer, sachant qu'en plus, voilà, moi je suis pas fils de professionnel, c'est un milieu qui est un peu atypique, donc je pense que c'est un pari qui a été réussi parce que ça a permis de franchir une première étape sans se jeter tout de suite dans le grand bain, et le plus important, tout en gardant une qualité d'infrastructure d'entraînement qui est extraordinaire. Et on peut avoir le meilleur cheval, etc., si on n'a pas les bonnes conditions d'entraînement, comme tout sportif, forcément ça limite le développement du projet. Donc voilà, on a fait le pari de construire 20 box. L'idée, c'est de garder 6 box pour mes chevaux de sport, d'avoir 3-4 box destinés aux chevaux de commerce, et le reste des box, c'est des box qu'on loue à des propriétaires. Donc on a du coup le modèle économique du cavalier. Aujourd'hui, il tourne autour de quoi ? Il tourne autour des pensions, enfin des box que je loue dans l'écurie, du commerce que je fais. Aujourd'hui, c'est une partie qui est assez minime par rapport à d'autres cavaliers, mais que je souhaite développer aussi progressivement. Je vis aussi grâce aux cours que je donne, aux stages, comme tout sportif. Alors ça, j'essaye de le faire de manière intelligente, dans le sens où aujourd'hui, j'y consacre pas énormément de temps, parce que je reste cavalier, et aujourd'hui, mon projet sportif passe en priorité sur tous les autres aspects. Mais par contre, c'est quelque chose qui me plaît, qui m'intéresse. Donc, on va dire que je le fais de manière ponctuelle et occasionnelle. Et puis après, il y a évidemment les gains en compétition, les sponsors, les partenaires, etc.
Ouais.
Et ce qui est aussi hyper important, Sciences Po, je crois, m'apporte ça aussi, c'est que moi, avec les sponsors que j'ai la chance d'avoir, qui me soutiennent, ou les boîtes, j'essaye d'être vraiment dans une logique de partenariat, c'est donnant-donnant. Eux m'apportent du matériel, des moyens financiers pour le projet, mais moi, j'essaye aussi de leur apporter des choses en retour. Donc, j'interviens dans les sociétés, je les mets en relation avec d'autres partenaires, etc. Donc, on va dire que c'est vraiment un cavalier, ça a plein de casquettes, quoi.
Ah ouais, bah
voilà. Et donc, il y a l'écurie qu'on a maintenant depuis 7 ans. Et parallèlement à ça, justement, dans la perspective et le développement de ce projet olympique par rapport à Paris, on a créé avec un de mes propriétaires il y a un an maintenant un fonds d'investissement, Caval Invest, voilà, destiné à acquérir des chevaux au potentiel Paris. Et voilà. Donc, aujourd'hui, on va dire que mes deux outils, c'est l'écurie et le fonds d'investissement.
Ok, et du coup le fonds d'investissement en fait il l'achète des chevaux et derrière il va essayer de les faire progresser et de les revendre plus
cher. C'est de l'acquisition de chevaux objectif Paris 2024. Peut-être qu'on arrivera, je l'espère, à avoir des chevaux qui iront jusqu'à cet objectif. On achètera aussi des chevaux qui ne correspondront pas, qui n'auront pas soit les qualités, soit entre temps on les vendra, ce qui permettra de faire tourner le système, quoi.
Ok, d'accord. Et comment tu les sources, les chevaux?
Les chevaux, c'est ce que je fais en ce moment. Ça demande beaucoup de temps. Généralement, je m'y consacre pendant 2 mois pendant l'hiver. C'est ça passe déjà avant tout par du réseau, et puis c'est de la route, du train, de l'avion pour aller voir les différents chevaux dans l'Europe, parler avec leurs propriétaires, échanger. Voilà, ça demande du temps, mais c'est aussi passionnant.
Ok, d'accord. Bon, génial. En tout cas, ça a l'air de te passionner. Ouais. Et c'est la période un petit peu creuse, donc j'imagine que tu es à fond. On arrive un petit peu à la fin de l'interview. Et comme je te le disais, j'ai une dizaine de questions que j'aime bien poser. Tu peux y répondre soit de au tac au tac, soit tu peux développer. C'est comme tu préfères. C'est quoi une bonne journée pour toi?
Une journée avec les chevaux. Une journée où j'arrive à finir assez tôt. Et surtout une journée où j'ai l'impression de ne pas avoir perdu de temps.
Ok, d'accord, génial. T'aimes pas perdre du temps?
Non.
C'est quoi ton meilleur souvenir de sportif?
J'en ai plein. Je crois que les championnats d'Europe en 2018, c'était à Fontainebleau. C'était magique parce que double médaille d'or. Vu que c'était en France, j'avais toute ma famille, toute mon équipe, ça a été vraiment un événement qui m'a marqué. Et puis c'était la première fois où il y avait les championnats d'Europe junior et jeune cavalier en même temps, donc les deux catégories d'âge, et la France ramène 4 médailles d'or chez les juniors et chez le jeune cavalier. Et du coup moi je suis double champion d'Europe en jeune cavalier, et la cavalière qui est double championne d'Europe, qui faisait aussi partie de l'équipe de France, en plus c'est devenu ma copine après. Donc, c'était
génial.
Un souvenir assez incroyable.
Ok, trop cool. T'as un pire souvenir?
J'en ai aussi plein. Je dirais les championnats d'Europe 2017, juste avant. On était champion d'Europe en titre, c'était en Irlande. Moi j'avais déjà gagné là-bas aussi. On était sur le papier une équipe qui devait tout défoncer, et puis ça s'est vraiment mal passé. Je sais pas, il y a eu une mauvaise ambiance. On n'était pas ensemble. En équipe, et puis voilà, on est complètement passé à côté de notre championnat pour l'équipe en général, et puis moi aussi du coup j'étais dans le lot, et voilà, c'était un souvenir qui était assez douloureux, mais je crois qu'il m'a fait vraiment rebondir, et au final c'est un souvenir horrible, mais pas si horrible que ça, quoi.
Ok, d'accord. Et c'est important l'ambiance qu'il y a entre les différents cavaliers?
Ouais, c'est super important parce qu'on est un sport individuel, et une fois par an, dans le cadre d'un championnat, on joue en équipe. Donc je crois que on dit souvent que les médailles individuelles arrivent parce qu'il y a une bonne équipe, et moi je sais qu'à chaque fois que j'ai eu des médailles en individuel, on en a une en équipe. Je crois que c'est vraiment hyper hyper important, la cohésion d'équipe, l'esprit d'équipe, chacun y joue un rôle, on est des équipes, avant c'était 4, maintenant ça passe à 3. C'est quelque chose qu'on mesure pas assez, je crois, mais au final si on fait un bilan, on en avait fait un jour avec la Fédé sur les 10 dernières années. Dès qu'on a eu une bonne équipe, il y a eu des médailles. Dès qu'il n'y avait pas d'esprit d'équipe ou mauvaise ambiance, l'équipe de France est complètement passée à côté de son championnat.
Ok, bon, tu fais bien de le noter, parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte dans les sports individuels à quel point l'ambiance peut jouer.
Le collectif
jouer,
est important.
On l'a vu là avec la Fed Cup des femmes sur le tennis, tu vois, elles ont réussi à recréer une équipe de fous. Alors que... Enfin, de folle plutôt, mais...
Une équipe, tu te transcendes et tu te sens bien.
Ouais.
Quand il y a une mauvaise ambiance ou quoi, que tu la joues individualiste, ça marche pas. Quand tu pars sur un championnat d'Europe, un championnat du monde, c'est l'équipe de France contre les autres. Ça ouais. doit pas être toi contre tes copains d'équipe de France. Si t'as ce raisonnement-là, c'est que t'es déjà trop petit dans, le... dans ta manière d'appréhender les choses, quoi.
Puis t'es mal parti, ouais. C'est clair. C'est quoi le moment qui a été le plus décisif dans ta carrière de sportif ?
Je sais pas si j'ai assez de recul, je suis au tout début de ma carrière. Je sais pas s'il y a un moment soit qui a été décisif. Par contre, je crois que j'ai eu la chance de tomber sur des personnes et des chevaux qui ont été évidemment décisifs dans ma carrière, quoi. Voilà, Alexis Bonnard, ça a été mon premier entraîneur. Lui, c'est évident qu'il a eu un rôle prépondérant. Je pense que j'aurais pas croisé sa route, j'aurais jamais été là. C'est certain. Bah, de pair avec lui, Qualitat, qui était mon premier poney. C'était un poney qui était difficile, mais je crois qu'il m'a énormément appris parce que c'était plus un petit cheval dans sa manière d'être.
Okay.
Donc je pense qu'on a l'habitude de dire que la transition poney-cheval, elle est très difficile pour les cavaliers. Moi, c'est vrai qu'elle s'est fait très simplement parce qu'en fait, c'est comme si j'avais tout le temps monté un cheval, quoi.
Ouais.
Et puis après, Funambule, pareil, il a été absolument décisif puisque c'est un cheval extraordinaire. Au début, quand je l'ai récupéré, on n'imaginait pas du tout le potentiel qu'il avait. Sur le papier, c'est pas du tout le meilleur cheval, il a plein de défauts. Par contre, ce qu'il a le plus sous les autres, je crois, c'est une volonté, un courage, et on a un lien tous les deux. J'ai l'habitude de dire que c'est mon meilleur pote qui est incroyable, et au final, bah voilà, c'est un cheval qui a jamais raté un championnat, et si j'en suis aussi là aujourd'hui, c'est grâce à lui, parce que toutes les médailles qu'il m'a permis d'avoir, bah forcément, les médailles, c'est ce qui joue dans la carrière d'un athlète. Et puis Maxime Livio aussi, qui est mon entraîneur actuel, et lui qui m'apporte, je crois, énormément dans tout ce qui est construction de ma carrière, recherche des chevaux, etc. Voilà, lui, je crois qu'il a un rôle aussi majeur pour mon cap, on va dire, de jeune à professionnel, quoi.
Ok, ouais, bah tu fais bien de citer leur nom, en tout cas, parce que ça, c'est important de montrer le travail des autres, et qui a bien été fait, et que c'est un travail d'équipe. Tu te souviens de la meilleure ambiance que tu as vécue ?
Comme ça, instinctivement, je dirais Fontainebleau. Ouais. C'était assez fou. Après, il y en a évidemment d'autres, comme je te disais, les championnats, etc. C'est quelque chose qui est... C'est toujours des souvenirs super marquants, parce que quand on est jeune, faire un championnat d'Europe, moi, je me souviens, la première fois qu'on m'a donné la veste équipe de France, c'est des moments qui reste marqué. Et puis avant chaque championnat d'Europe, t'as un stage de préparation, et puis avant les stages de préparation, t'as les stages d'hiver où on essaye un peu de préparer. Alors dans les stages d'hiver, on est une 15-20, le stage de préparation on est plus que 6, et puis au championnat on est plus que 4, maintenant 3.
Ouais.
Mais c'est des souvenirs qui sont absolument marquants. Ouais.
Ouais, et puis à partager, c'est toujours, toujours cool. Est-ce que t'as une idole sportive?
J'en ai plein. Moi, dans ma discipline, c'est Michael Young. C'est un cavalier qui est extraordinaire. On a l'habitude de lire, de dire, d'entendre que c'est le meilleur cavalier du monde qui ait jamais eu. C'est quelqu'un qui est incroyable. En France, tu en as aussi plein d'autres. Maxime en fait partie. Et puis, dans d'autres sports aussi. Je suis passionné de sport, donc je crois qu'on a la chance d'avoir... En France et dans le monde, des sportifs extraordinaires. Après, je crois que chacun doit aussi écrire son histoire. C'est des sportifs qui forcément m'inspirent, que j'admire, mais j'essaye pas du tout de me calquer sur eux. Chacun doit écrire et vivre son histoire.
Ouais. Est-ce qu'il y a encore des choses qui te font peur ?
Bah ouais, il y en a plein.
Comme la plongée sous-marine, par exemple.
Il y en a plein, la plongée sous-marine. Ouais, non, y a plein de choses qui me font sport. Après, dans mon sport, y a toujours cette peur de l'échec, cette peur de pas réussir. Forcément, elle est là. Elle est là, je pense, dans la tête de chaque sportif. Par contre, c'est quelque chose qui ne doit pas, en tout cas, me perturber, me gêner. On l'a forcément inconsciemment. Je pense que ça doit plus nous permettre de rebondir, de voir plus loin, de se remettre en question. Mais ça doit pas nous déstabiliser.
Ouais, c'est clair. Et tu te souviens du meilleur conseil qu'on t'ait donné ?
On m'en a donné plein que j'ai pas oublié. J'en ai plein en tête. Le meilleur conseil qu'on m'a donné... J'ai du mal à en sortir un particulièrement, mais je dirais écoute ce que tu sens, quoi. Reste toi-même.
Okay.
Fais comme tu le sens, parce qu'on est un sport dans lequel bah, y a forcément beaucoup de monde, beaucoup d'équipes. Je pense qu'il y a aussi fait la réussite de ma jeune carrière, c'est que j'ai été très encadré très tôt. Mais je crois qu'au dernier moment, sur le terrain, ça reste moi et mon cheval. Et dans ces moments-là, même si on a les meilleurs entraîneurs du monde, la meilleure équipe du monde, et bah, il faut prendre sa décision, quoi.
Okay.
Faire ce qu'on sent.
Ouais. Il y a un film ou un livre que tu recommandes à tout le monde? Alors, ou un podcast peut-être?
Je lis pas beaucoup. J'aimerais bien lire plus. Des films, j'en regarde plein, mais je crois que je regarde surtout des conneries.
T'as raison,
pour me détendre. Mais non, des bons films, j'en ai plein. Franchement, je crois que je suis pas capable de conseiller un truc en particulier. Je suis pas le plus grand sportif culturel qui existe.
Non, mais t'aurais pu avoir un film récemment qui marque. Des fois, ça arrive, mais c'est pas grave en tout cas. Comment est-ce qu'on te suit? Comment est-ce que les auditeurs peuvent suivre un petit peu ton parcours? C'est quoi le meilleur endroit pour
Déjà en écoutant le podcast.
Ouais.
Non, après, bah, sur les réseaux, c'est la simplicité. Et puis après, en compétition, moi, c'est avec le plus grand plaisir que je peux voir, partager, discuter. C'est vrai qu'on est un sport qui est peut-être un peu moins populaire que d'autres. On a aussi la chance d'avoir des personnes comme toi qui mettaient en avant des sports comme ça. Je pense qu'on est un sport, alors forcément, je suis un passionné, donc je vais dire qu'il est incroyable, mais c'est vrai que c'est un sport qui présente plein de particularités. Et j'ai jamais vu quelqu'un qui est venu voir un concours et qui a pas dit oh, c'était canon, j'ai envie de revenir, quoi. Donc on a plein de concours magnifiques en France. Voilà.
Ouais, mais j'ai vu qu'on était un des plus gros organisateurs de compétition.
Exactement. Ouais. Okay. Ouais, la France fait partie des nations fortes de l'équitation et du concours complet. On est les champions olympiques en titre. À Rio, on est un des plus gros organisateurs de concours en Europe. On a des concours magnifiques. Donc ouais, il faut venir s'y intéresser, discuter, partager.
Ouais, t'as bien raison, tu fais bien de le dire, en tout cas c'est super chouette. Mais du coup, j'arrive à la dernière question du podcast. Est-ce que il y a un sportif ou une sportive que tu me recommandes d'aller interviewer sur le podcast?
Écoute, je pourrais te donner une liste de plein de sportifs, mais bon, tout de suite
c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, hein. Fais attention.
non, je te donnerai ça, mais écoute, là tout de suite comme ça, je te proposerai bien un bon copain d'équipe.
Okay.
Victor Burtin, on a fait quasiment tous nos championnats d'Europe ensemble.
Okay.
Et je pense que c'est extrêmement intéressant, c'est un gars qui est passionné. Et on a aujourd'hui des parcours un peu différents. Moi, je suis assez autonome ici. Et lui, il a fait le pari, sorti de nos derniers championnats d'Europe ensemble, de partir à l'étranger en Angleterre. L'Angleterre qui est la nation, on va dire, phare du concours complet. Okay. C'est là où il y a le plus de concours 5 étoiles qui sont nos concours du top niveau, et il est parti chez le numéro 1 mondial, Oliver Toned. Donc je crois que c'est un cavalier qui témoigne de beaucoup de courage, de volonté, parce que c'est jamais simple de partir de chez soi, de se lancer, partir en Angleterre. Au départ, il parlait pas anglais.
Ouais.
Et voilà, donc lui, il a les mêmes objectifs que moi, il a les mêmes rêves que moi. On a fait le début de notre carrière ensemble, c'est un super bon copain, mais aujourd'hui c'est intéressant de voir les différents parcours. Lui, il a fait le pari d'aller prendre de l'expérience, aller s'inspirer de la culture anglaise, du meilleur cavalier du monde, voir d'autres systèmes, d'autres écoles, apprendre, et je suis sûr qu'il en tirera profit vraiment. Voilà, moi j'ai un système aujourd'hui qui est un peu plus différent, mais voilà, on s'appelle toutes les semaines et j'espère qu'on sera ensemble à Paris.
Ok, trop cool. Bon, écoute, merci beaucoup, Victor.
Merci.
C'était vraiment super. Un plaisir. C'était un super moment. Donc, j'espère que les auditeurs apprécieront. Et voilà, j'encourage tous les auditeurs à aller suivre Victor sur les réseaux et aller l'encourager pour les jours à venir. Salut.
Merci. Salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao !